Merci beaucoup à toute l'équipe de louanges. Une bénédiction de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir entrer dans sa présence et de pouvoir le louer, lui, le seul vrai Dieu. Ce Dieu si grand, comme on a dit tout à l'heure, un Dieu tellement, tellement grand. Qui sommes-nous pour être appelés ses enfants? Mais c'est par sa grâce, parce qu'il nous l'a montré. Par le cœur nouveau qu'il nous a donné. Et c'est une bénédiction pour nous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Marc au chapitre 10. Marc 10. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas une Bible ce matin avec eux. Et est-ce que si c'est le cas, si vous n'avez pas de Bible avec vous, faites simplement seulement lever la main. Je vais demander à un placeur de venir vous en porter une. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible, levez la main. Pour lire le passage avec nous dans Marc chapitre 10, il y a une dame à l'arrière, là, quelqu'un va aller vous la porter en Marc 10, il est tourné pour vous dans Marc 10. Marc 10, les versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, combien tu es grand. Ta grandeur est incalculable. De penser que mon Dieu, mon berger, celui à qui j'appartiens, est capable de mettre toutes les eaux de la terre qu'on trouve sur la terre dans le creux de sa main. Que les cieux entrent dans la paume de sa main. Et que les nations sont devant toi comme une poussière sur la balance. Qui suis-je, Seigneur? Pour venir parler à ton peuple. Je suis qu'un atome à tes yeux, infiniment petit. Mais Seigneur, comme tu as dit à Ésaïe, une pierre ardente a touché mes lèvres et mon péché a été purifié. Mon iniquité a été enlevée. Et tu as demandé à Ésaïe, « Qui enverrai-je? » Il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Et Seigneur, ce matin, je suis devant toi, me voici. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise ma faible vie, ma faiblesse devant toi pour parler à ton peuple. Seigneur, nous sommes tellement graciés par toi. Merci pour chacun d'entre nous qui ont reçu ton pardon. La grâce qui a surabondé en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes tous tes enfants. On veut apprendre de toi ce matin. Je veux apprendre de toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, viens parler à mon cœur. Et que nous puissions, Seigneur, tous ensemble, apprendre à te glorifier. Apprendre à se confier en toi et dans ta grandeur et ta puissance. Que ton nom soit élevé au milieu de nous ce matin. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dernièrement, je parlais avec une sœur qui me disait qu'elle trouvait cela de plus en plus difficile. De plus en plus difficile de parler du Seigneur Jésus. Elle avait l'impression qu'elle mettait beaucoup d'efforts pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle à ses proches, aux gens de sa famille. Elle trouvait, aimait de, beaucoup d'efforts, mais malgré tous les efforts qu'elle mettait, elle trouvait ça tellement difficile parce qu'elle ne voyait pas le fruit de son travail. Les gens à qui elle parle ne sont pas intéressés d'entendre l'Évangile. Ou s'ils sont intéressés, ils sont pendant un certain temps et tout d'un coup, quelque chose arrive dans leur vie qui fait que finalement, rejettent l'Évangile. Et à cause de cela, la dame était découragée. Elle se demandait si ça en valait vraiment la peine. Ce que cette dame me partageait, je suis certain que certains d'entre vous le vivez aussi, plusieurs d'entre nous, j'ai déjà passé par là aussi. On passe par là, des moments de découragement. On aime le Seigneur, on veut travailler pour lui, mais après tant d'années à partager l'Évangile, on ne voit pas le fruit du travail. On ne voit pas des conversions à travers notre témoignage. Et à cause de cela, on perd courage parce que les gens rejettent l'Évangile. Et des fois, les gens nous rejettent, nous, à cause de ça. Et on vient à se demander, ça vaut-tu vraiment la peine, tout ça, de se donner tout ce mal-là pour annoncer l'Évangile? Et le zèle et la motivation que nous avions autrefois disparaît, car on voit très peu de gens venir au Seigneur. Et on se demande, est-ce que quelqu'un va un jour être sauvé? Dans le passage ce matin, on voit qu'à la suite d'un événement particulier, Jésus va dire quelque chose à ses disciples qui va les décourager et même les provoquer à se poser un peu la même question qu'on peut se poser parfois. Est-ce que quelqu'un va être sauvé? Qui peut être sauvé? Dans le passage ce matin, on voit qu'un jeune homme riche qui vient vers Jésus, tellement désireux d'avoir la vie éternelle qu'il va se jeter à genoux devant lui. Il ne peut pas avoir de meilleure occasion pour partager l'Évangile. Quelqu'un qui vient à tes pieds, qui se jette à genoux, dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? » Alors Jésus, à sa façon, commence à lui présenter l'Évangile. Il sort son carnet, fait un sondage spirituel. Non, ce n'est pas ça qu'il fait. Jésus le connaît déjà. Jésus connaît cet homme-là et à travers sa conversation, il va démontrer que ce jeune homme-là a dans le cœur un attachement très profond à ses richesses. Jésus connaît déjà un peu cet homme, c'est un juif, et le passage dans l'Évangile de Luc va nous dire que c'est un chef, et probablement un chef religieux. Alors Jésus lui dit, tu connais les commandements, évidemment c'est un chef religieux, il connaît ça, puis le gars il dit, bien sûr, j'ai grandi là-dedans toute ma vie moi, et puis j'ai tout observé ça, les commandements. Là, Jésus dit, « Ah ouais, t'as obéi à tout ça? » Non, il te manque une chose. Puis là, Jésus, il dit, « Il te manque une chose, il dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. » Ensuite, il dit, « Puis viens et suis-moi. » Mais ça n'a pas fait l'affaire de cet homme-là. Ça n'a pas fait son affaire, alors il est parti, triste. Et a refusé de suivre Jésus. Humainement parlant, on peut dire que c'était beaucoup demandé de la part de Jésus pour ce jeune homme-là. Dire à un gars qui s'est efforcé toute sa vie de suivre les commandements que ce n'est pas suffisant pour avoir la vie éternelle et de tout vendre ses richesses pour le suivre. Allô? C'était pas assez ce que j'ai fait? Mais Jésus avait raison. Il lui manquait quelque chose. Humainement parlant, c'est inconcevable. Il me semble que Jésus en demande beaucoup, mais Jésus avait raison. Ce n'était pas suffisant. Il lui manquait quelque chose. Et que lui manquait-il? En fait, ce qu'on voit dans la vie de ce jeune homme-là, c'est qu'il n'était pas prêt à aimer Dieu de tout son cœur. Il avait suivi les commandements qui concernent son prochain. Il avait aimé son prochain, pas commis d'adultère, pas volé, et honoré son père et sa mère. Mais qu'en était-il des premiers commandements qui se résument à aimer Dieu de tout son cœur? Et Jésus va révéler le cœur de ce jeune homme-là en lui demandant d'abandonner toutes ses richesses pour le suivre. Il lui demande de prouver qu'il aime Dieu de tout son cœur en laissant derrière lui tout pour suivre Jésus, Dieu le Fils, le Messie que Dieu a envoyé. Jésus ne demande pas à tout le monde de vendre ses richesses, de vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. Mais une chose est sûre, pour obtenir la vie éternelle, il faut être prêt à suivre Jésus-Christ. Il faut être prêt à ce que Jésus devienne le maître de notre vie, notre Seigneur, celui à qui on veut obéir et celui qu'on va aimer par-dessus tout. Mais le cœur de cet homme-là était attaché à des richesses, à une idole qui prenait la place de Dieu, alors il a refusé de suivre Jésus. Mais ce qui peut nous intriguer le plus dans ce passage-là, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples à la suite de cet événement-là. À la suite de l'événement, Jésus en profite pour enseigner ses disciples sur l'impossibilité pour les hommes d'être sauvés. Au verset 23 et 24 de notre passage, Jésus va dire, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, on voit Jésus le spécifie, c'est le fait qu'ils se confient dans les richesses. Et c'est pourquoi Jésus va dire au verset 25, il va aller jusqu'à dire qu'il est plus facile à un chameau, le plus gros animal qu'on pouvait trouver en Palestine à cette époque-là. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une petite aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus emploie cette image-là pour dire que c'est tellement impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est impossible. C'est une hyperbole ici que Jésus emploie. C'est qu'il va illustrer que tu auras beau essayer de le faire passer là. Mais ça passera jamais. Et ça, c'est plus facile pour Dieu, pour de faire passer le chameau d'un trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples sont étonnés de ce que Jésus dit et se demandent, mais si ce n'est pas possible, qui peut être sauvé? Et on va lire au verset 26 que les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. En fait, pour comprendre l'étonnement des disciples, il faut bien comprendre ce que les richesses signifiaient pour eux. Dans le judaïsme, il était absolument inconcevable pour un riche de ne pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Jésus promet à ceux qui vont obéir, à ceux qui vont obéir à sa loi? Il lui promet la bénédiction. Et pour les Juifs, ça se traduisait certainement dans des richesses matérielles. Et si cet homme-là, qui a suivi tous les commandements pendant toute sa vie, et puis qui est devenu riche par la bénédiction de Dieu, comment cet homme-là, qui béni de Dieu, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu? Ça ne fait pas de sens avec ce qu'on connaît de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Alors, ce que Jésus arrive... Lorsque Jésus arrive et dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ça ne fait absolument pas de sens. Mais Jésus va finalement éclairer. Et finalement, si ce n'est pas possible pour personne d'entrer dans le royaume de Dieu, est-ce que c'est possible pour quelqu'un? Jésus dit que cela, le salut ne dépend pas des hommes, mais dépend seulement de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire que si quelqu'un peut entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de Dieu seul. C'est à cause de Dieu qu'un homme peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand bien même qu'un homme serait le meilleur gars au monde, ce n'est pas possible, sinon que par l'intervention de Dieu que cet homme-là entre dans le royaume de Dieu. Ainsi, la réponse que Jésus donne à ses disciples et qui est démontrée par l'histoire du jeune homme riche se résume ainsi. Le salut d'un homme n'est en rien garanti par ses richesses, par le fait qu'il a suivi les commandements ou qu'il reçoive la bénédiction de Dieu dans sa vie, mais plutôt d'un cœur prêt à dépendre entièrement de Dieu. Ne pas dépendre de ses richesses, mais de dépendre entièrement de Dieu. Un cœur prêt à tout abandonner pour faire de Jésus-Christ le maître et le seigneur de sa vie, le roi de sa vie. Et sans une intervention divine dans la vie de quelqu'un, d'une personne, cela est absolument impossible que cela arrive. Que quelqu'un abandonne tout, prêt à tout abandonner et confier sa vie entièrement à Jésus-Christ. C'est impossible car c'est seulement Dieu qui rend possible le salut d'une personne. Maintenant, la question qui peut nous venir en tête, c'est si le salut dépend seulement de Dieu et entièrement de Dieu, comment Dieu fait-il pour sauver? Comment Dieu intervient? Et si ça ne dépend pas de nous, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans le plan de Dieu? Est-ce que ça sert à quelque chose, le travail que Dieu nous demande d'accomplir pour lui? Eh bien, ce matin, j'aimerais vous montrer à travers d'autres passages, on va voir ensemble que Dieu va manifester sa puissance dans le salut et il rend possible le salut d'une personne pour trois raisons. Premièrement, le salut a été rendu possible en Jésus-Christ. Dieu est puissant pour sauver aussi par une proclamation vivante de l'Évangile et par son Esprit qui accorde la repentance et la foi. Dieu va démontrer sa puissance pour sauver en rendant le salut possible en Jésus-Christ. Et si quelqu'un peut être sauvé, la première raison, c'est parce que Dieu a rendu possible le salut en Jésus-Christ. Nous avons vu que les enfants, dans les dernières semaines, entre autres avec Yannick, que Dieu s'est révélé de trois façons aux hommes. Par la création, par la conscience et par sa parole. Si Dieu n'avait pas décidé de se révéler aux hommes, si Dieu n'avait pas décidé de parler aux hommes et de parler de lui-même pour que les hommes puissent le connaître, il aurait été impossible pour les hommes de connaître Dieu et d'être sauvés. Mais la troisième façon, qui est d'après moi une des plus importantes dans laquelle Dieu se révèle, c'est que Dieu se révèle dans sa parole. Et par sa parole, on peut connaître le plan du salut, le plan de rédemption que Dieu a accompli. La parole de Dieu nous enseigne sur le plan de Dieu pour les hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait connaître son plan par les prophètes. Par les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu a fait connaître son plan. Il a fait savoir qu'un jour, un Messie viendrait. Un nouveau roi viendrait pour régner éternellement. Et dans le Nouveau Testament, on voit que ce roi-là est venu et que maintenant, par lui, par son sacrifice à la croix et par sa résurrection, maintenant, c'est possible de connaître Dieu. Et Dieu a manifesté son plan extraordinaire dans une personne, la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ, qui s'est fait homme. Jésus est venu pour donner le salut à Israël et à toutes les nations. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés et pour donner la vie éternelle à ceux qui placent la foi en lui. Tout le plan de Dieu est accompli en un moment, un instant, une personne, Jésus-Christ à la croix et ensuite de ça par sa résurrection. Tout le plan de Dieu est accompli en Jésus-Christ. Et par sa parole, on peut connaître ça. Et c'est Jésus qui est venu révéler et nous rendre possible le salut pour connaître Dieu et s'approcher de lui. Toute l'Écriture, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pointe vers un événement, Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu pointe vers la parole incarnée. Maintenant, tous ceux qui réalisent leur état de pécheur, qui sont séparés de Dieu pour l'éternité, et qui reconnaissent en Jésus-Christ le moyen par lequel ils peuvent être pardonnés de leurs péchés et être sauvés, doivent se repentir, être prêts à tout abandonner et placer leur foi en Jésus-Christ pour le suivre. Dieu a rendu possible le salut par Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes ici ce matin, des gens qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui ont été instruits dans la parole de Dieu, qui ont entendu le message de l'Évangile maintes et maintes fois, mais qui n'ont jamais pris cette décision de se repentir de leurs péchés pour être prêts à placer leur foi en Jésus-Christ, à être prêts à tout abandonner pour que Jésus-Christ soit le Seigneur de leur vie. Si tu n'as pas pris cette décision-là encore, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Si tu connais le plan du salut en Jésus-Christ, le plan pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, puis que tu n'as pas pris cette décision, attends pas. Viens à Christ. Reconnais que tu as péché. Reconnais que ton péché mérite la punition de Dieu et que sans Jésus-Christ, tu es perdu pour l'éternité, séparé de Dieu. Mais qu'en Christ, Dieu a tout accompli, le plan merveilleux du salut pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu et vivre avec Dieu pour l'éternité. Viens à Jésus-Christ, place ta foi en lui, laisse tout, puis suis-le. Le jeune homme riche avait ses richesses. Il y avait ça. Et le fait que le jeune homme riche ne pouvait pas être sauvé, c'est parce que quand Jésus lui demandait « Viens, je t'offre le salut. Viens, suis-moi. » Le jeune homme riche n'était pas prêt à lâcher prise, à lâcher ce qu'il avait dans sa main, ses richesses, à tout abandonner ça pour suivre Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu n'as pas encore lâché prise, mais Jésus est là, il te tend la main, puis il dit, « Lâche ça, puis viens, suis-moi, je vais avoir un trésor dans le ciel. » Si tu n'as pas pris cette décision-là, prends-la dès aujourd'hui, attends pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette bonne nouvelle-là, cet évangile-là, ce n'est pas moi qui viens de l'inventer. Il est écrit dans la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne là-dessus. Dieu nous a révélé sa parole pour qu'on puisse comprendre c'est quoi son plan, le plan rédempteur. Et Paul nous dit dans Romains 1:16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et l'Évangile, le plan de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, c'est une puissance de Dieu qui est manifestée et qui rend possible le salut. Alors, Dieu démontre sa puissance pour sauver en rendant le salut possible en Jésus-Christ. C'est la première chose qu'on voit, comment Dieu a montré sa puissance. La deuxième façon dont Dieu démontre sa puissance pour sauver, c'est par une proclamation puissante et vivante de l'Évangile. Dieu aurait pu choisir tout simplement de laisser une Bible sur une tablette et dire, et la laisser là tout simplement, sans rien dire. Et puis qu'un jour, quelqu'un découvre qu'un livre existe et qu'on peut comprendre le salut, savoir comment être sauvé en lisant ce livre-là. Dieu aurait pu nous dire, allez dans toutes les nations et distribuer des Bibles. Donnez la Bible aux gens. Et puis, les gens vont être sauvés comme ça. Je crois sincèrement que la distribution des Écritures est super importante et je ne veux pas le négliger, mais je crois qu'on doit aller plus loin que ça. La proclamation vivante et puissante de l'Évangile par l'Esprit de Dieu, par les enfants de Dieu, est nécessaire pour que les gens puissent entendre le message du salut et être sauvés. Il n'a pas décidé seulement de laisser juste une Bible quelque part, mais il veut que cette Bible-là soit ouverte pour que les gens puissent lire, peut-être avec quelqu'un qui l'a compris, pour qu'elle puisse être expliquée, qu'elle puisse être entendue, non seulement lue. Ainsi, Jésus va dire dans Luc 24, les versets 46 à 49. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Il parle à ses disciples. « Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Si le salut peut être rendu possible, c'est par la prédication de l'Évangile. Jésus a dit que ce message-là doit être un message prêché. Et littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être proclamé, dit haut et fort, annoncer que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité et vivant pour nous donner la vie éternelle. Littéralement, ça veut dire que ce message-là ne va pas juste rester dans un livre, mais il va être dans la bouche de des gens pour qu'il soit proclamé. Pour être des témoins vivants de Jésus-Christ, on doit vivre ce que nous prêchons. On doit en parler, mais on doit aussi vivre ce qu'on prêche. Non seulement le message a besoin d'être le bon message aussi, mais et qu'il soit parlé, mais aussi il faut qu'il soit vivant, il faut que les gens voient une différence. Si on dit que ce message-là est supposé d'apporter la différence dans la vie de quelqu'un, les gens doivent voir une différence dans nos vies. Et les gens ont besoin de voir l'amour de Jésus-Christ et sa compassion paraître dans nos relations, entre nous et avec eux. Les gens ont besoin de voir l'Évangile à l'œuvre dans les vies. Ils ont besoin de sentir que ce dont on parle, ce n'est pas juste une religion, mais c'est une transformation, une relation vivante avec Dieu. Et que des cœurs transformés par l'amour de Jésus-Christ démontrent son amour aux gens autour de nous. Et pour accomplir cette tâche de proclamer, de vivre l'Évangile puissamment dans nos vies, le Seigneur nous a promis son Esprit. Il nous a donné son Esprit qui nous rend capables d'être des témoins fidèles pour lui, de parler de Christ et de vivre pour lui, pour montrer le message de l'Évangile. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il m'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit même, je vais vous envoyer sur vous le Saint-Esprit, la puissance qui vient d'en haut pour vous rendre capable de le faire. Et c'est la deuxième façon dont Dieu démontre sa puissance pour sauver, par une proclamation puissante et vivante de sa parole. Maintenant, à ce point-ci, on n'a pas tout à fait répondu à la question, à toute la question. Parce que comme vous et moi, vous avez déjà partagé, fait connaître l'Évangile à des gens. Vous l'avez partagé. Les gens ont compris en principe c'est quoi. C'est quoi ça veut dire, ce que Jésus est venu faire. Vous l'avez proclamé, vous l'avez peut-être même répété plusieurs fois à des gens. Mais comme vous et moi, vous avez certainement rencontré plusieurs personnes qui n'ont jamais fait le pas de se repentir de leurs péchés, de placer leur foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque si Dieu leur a rendu possible le salut en Jésus-Christ et qu'il le rend possible par une proclamation aussi? Qu'est-ce qui manque pour que les gens fassent ce pas-là d'avancer, de se confier, de lâcher leur richesse ou leur idole pour se confier en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui manque? Pour cela, Dieu a donné une troisième façon. Troisième façon dont Dieu a manifesté sa puissance, qui est absolument essentielle dans la conversion d'une personne. Et c'est le fait que Dieu démontre sa puissance par son Esprit qui accorde la repentance et la foi. Cette dernière démonstration de la puissance de Dieu est, à mon avis, le point principal du passage avec le jeune homme riche. Et la raison pour laquelle Jésus dit aux disciples que le salut est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Et le point que je veux faire ici, c'est que pour qu'une personne soit sauvée, cela dépend entièrement de l'œuvre de Dieu dans le cœur de la personne. Cette œuvre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être né de nouveau. Et on voit ce langage-là, entre autres, dans l'Évangile de Jean. La nouvelle naissance est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va dire à Nicodème, dans Jean 3, versets 5 à 7, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et remarquez ici le même langage que dans l'Évangile de Marc. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, je dois naître de nouveau. Je dois naître de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par ces paroles-là? Comment est-ce possible pour quelqu'un de naître de l'Esprit? Comment c'est possible que quelqu'un naisse de nouveau? Comment ça se passe dans la vie de quelqu'un? Pour bien comprendre cette expression-là, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, Jésus va parler d'une nouvelle alliance qui va être établie entre Dieu et les hommes. Une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance-là va être rendue possible, entre autres, par ce qu'on appelle dans Jean 3 la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, verset 26, nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce qu'on voit dans ce passage-là, dans les paroles d'Ézéchiel, c'est qu'Ézéchiel est en train d'annoncer ce qui allait se passer plus tard, la nouvelle naissance. Et ainsi, la nouvelle naissance vient de Dieu. Parce que c'est lui qui donne un cœur nouveau, qui met en nous un cœur nouveau, remplacer ce cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. C'est lui qui met cet esprit-là en nous pour qu'on puisse lui obéir, être prêt à tout abandonner pour pouvoir le suivre. C'est Dieu, par son esprit, qui vient d'une façon miraculeuse. On ne sait pas comment ça se passe exactement, mais un jour, la personne, ses yeux sont ouverts. La lumière brille dans son cœur, comme dirait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4. Et puis maintenant, cette personne saisit, comprend qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Et c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que l'Esprit de Dieu provoque dans le cœur conduit la personne vers la repentance et la foi. Sans le travail de l'Esprit de Dieu, la personne ne peut pas être sauvée. C'est impossible pour les hommes d'être sauvés. Seulement cela est possible à cause de Dieu, à cause de l'intervention divine dans le cœur. Ainsi, pour répondre à l'Évangile, par la repentance et la foi, l'intervention de Dieu par son Esprit est nécessaire. Et en accordant la nouvelle naissance, s'ensuit inévitablement la repentance et la foi. C'est ce qu'on appelle dans le langage théologique la grâce irrésistible. Que Dieu vient ouvrir les yeux, puis la grâce est tellement grande parce que là maintenant on le comprend, on le saisit, puis finalement on dit oui, je veux me repentir de mes péchés, je veux pas manquer ce salut-là, je veux placer ma foi en Jésus-Christ. Et Dieu démontre sa puissance de cette troisième façon-là, en accordant par son esprit la repentance et la foi, une nouvelle naissance, un cœur changé. Et Dieu démontre sa puissance de trois façons, comme on a vu, en rendant le salut possible par une proclamation vivante, mais aussi par son esprit qui vient changer le cœur pour saisir la repentance et la foi. Ainsi, le salut de Dieu ne dépend pas de nous, ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu seul. Mais puisque le salut dépend pas de nous et dépend de Dieu seul, que c'est seulement la puissance de Dieu qui intervient, on peut être motivé pour l'Évangile. On peut continuer d'être confiant dans la puissance de Dieu, que Dieu peut changer des cœurs, que Dieu peut sauver des gens que ça fait peut-être 20 ans que vous leur prêchez l'Évangile. Dieu est capable, par son esprit, de venir changer un cœur pour que la personne puisse saisir l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on peut être motivé pour l'Évangile, être confiant dans la puissance de Dieu. Et pour cela implique trois choses. On doit croire que Dieu est puissant pour sauver encore aujourd'hui, en 2010. Si on a perdu courage dans notre prédication de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, de partager l'Évangile autour de nous, il faut se rappeler que Dieu est puissant pour sauver encore aujourd'hui. La tâche que le Seigneur nous a demandé d'accomplir n'est pas terminée. Au contraire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais si elle était terminée, on ne serait plus ici. Vous êtes d'accord avec moi? On ne serait plus ici. On serait déjà parti avec le Seigneur. Mais si on est encore ici, c'est parce qu'il y a encore du travail à faire. Et ce qui m'encourage beaucoup, lorsque je suis découragé, lorsque je perds courage, il y a un verset particulier dans Jean 10. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean 10. Je ne peux pas ne pas vous conduire dans ce passage-là. Jean 10. Jean 10, verset 16. Un verset qui m'encourage énormément lorsque je perds courage dans ma proclamation de l'Évangile, lorsque je suis découragé de voir que les gens ne viennent pas à Christ. Jean 10, verset 16, Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit trois choses. Premièrement, il dit qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Ça veut dire qu'il y a encore des gens à l'extérieur de l'Église qui ne sont pas encore entrés dans une relation avec Dieu, qui ont besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Des brebis que Dieu veut gagner, que Jésus veut amener à lui. Et ça, c'est le deuxième point. Qui va les amener? Jésus dit, il faut aussi que je les amène. C'est Jésus qui va les attirer au Père, qui va les attirer à lui. Et puisque Jésus est tout-puissant et que Dieu est tout-puissant pour changer des cœurs, on peut croire qu'il y en a d'autres qui vont venir aussi. Et finalement, Jésus dit que ses brebis entendront sa voix et qu'elles vont venir à lui. Mais comment est-ce qu'elles vont entendre sa voix? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense faire partie des brebis dont Jésus parle ici, qui n'étaient pas encore dans la bergerie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus parle, il y a 2000 ans, je n'étais pas encore là. Je n'existais pas et puis j'étais loin d'être dans la bergerie. Mais un jour, quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un m'a fait entendre le message de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a fait entendre ce que Jésus dit. Et quand j'ai entendu, le Seigneur a ouvert mon cœur à un certain moment donné, pas immédiatement, mais à un moment donné, Dieu est venu ouvrir mon cœur pour que je saisisse l'Évangile. Le Seigneur m'a amené à lui parce que j'ai entendu sa voix, puis j'ai décidé de le suivre. Vous avez entendu la voix de Jésus de quelqu'un? Vous avez besoin de partager ce que Jésus a à dire aux gens autour de vous. Les autres autour de vous ont besoin d'entendre la voix de Jésus. Et parmi celles-là, des gens vont venir à lui parce que Dieu va accorder la repentance et la foi. Dieu est puissant pour sauver. On doit réaliser notre incapacité de sauver les hommes. C'est la deuxième chose qu'on doit retirer. Dieu veut se servir de nous pour attirer des gens à lui. Et ça, c'est le point. Comment est-ce qu'ils vont entendre? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est nous. Dieu veut se servir de nous. Il faut réaliser ça. On n'est pas capable. C'est impossible. Mais Dieu nous a donné une tâche. Et on doit lui obéir. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Il faut proclamer. Il faut annoncer l'Évangile. Et le Seigneur nous a revêtus de son esprit, sa puissance qui vient d'en haut, pour pouvoir être ses témoins. Oublions pas qu'on est dans une guerre spirituelle. Décourageons-nous pas, mais continuons de proclamer l'Évangile en étant fortifiés par la puissance de Dieu. Fortifiés aussi en étant confiants que Dieu peut sauver. Finalement, si Dieu se sert de nous dans notre proclamation pour sauver les gens, mais que ce n'est pas la proclamation elle-même qui va sauver, mais que Dieu s'en sert seulement, on doit réaliser la puissance de Dieu pour sauver, mais se mettre à genoux et prier que Dieu manifeste sa puissance par des conversions. Si ça ne dépend pas de moi, je dois me mettre à genoux. Dans ma vie, je réalise que lorsque j'ai négligé d'être un témoin de Jésus-Christ, bien souvent, c'est parce que ça n'occupait pas assez de place dans mes prières. Le salut des âmes perdues n'occupait pas de place dans mes prières. Au contraire, c'était mes petits bobos qui prenaient toute la place. Et lorsque je suis découragé, lorsque je ne prie pas pour les âmes perdues, bien souvent, je peux voir que je ne parle pas non plus du salut. Je ne le partage pas parce que ça ne prend pas de place dans mon cœur. Je n'ai pas ce fardeau-là dans mon cœur. Mais on doit entièrement dépendre de Dieu, se mettre à genoux et que cette place pour cette prière pour les âmes perdues puisse occuper toute une place dans nos cœurs et qu'on puisse venir à genoux pour prier. Implorer Dieu qui nous donne sa puissance pour qu'on puisse proclamer, mais qu'il puisse venir aussi changer des cœurs. Frères et sœurs, s'il y a un endroit où j'aimerais qu'on puisse grandir, où je pense que tout le conseil des anciens aussi, je pense que plusieurs dans l'Église aimeraient nous voir grandir, c'est dans notre vie prière pour les âmes perdues. On a une mission à accomplir. C'est un ordre qu'on doit obéir. Mais étant donné que ça ne dépend pas de nous, on doit se mettre à genoux, frères et sœurs. On doit prier pour ces gens qui sont perdus et que Dieu vienne changer des cœurs pour qu'ils puissent être sauvés. J'aimerais vous lancer un défi ce matin. Puis ça va vous demander de sortir un petit peu de votre confort, mais pas tant que ça, c'est pas si pire. J'aimerais que d'ici la fin de la journée, peut-être que vous pouvez le faire déjà maintenant, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à 3 personnes que vous connaissez autour de vous. 3 personnes que vous avez à cœur de voir venir à l'Évangile. 3 personnes pour qui vous avez négligé de prier dans les dernières années. Et si je suis émotif, c'est certainement parce que je réalise que j'ai manqué de prier moi aussi. Mais des gens, on veut voir des gens venir à Jésus-Christ. Et pensez à 3 personnes. Écrivez le nom de ces 3 personnes-là sur un bout de papier. Mettez-le à un endroit où vous allez régulièrement dans la journée. Les femmes qui sont à la maison, ça peut être sur une porte d'armoire. Ça peut être inséré dans votre Bible pendant votre culte personnel. Mais ces 3 personnes-là, engagez-vous à prier chaque jour pour le salut de ces gens-là. Croyez-vous que Dieu est assez puissant pour sauver ces gens-là? Dieu peut changer des cœurs. Ça ne dépend pas de moi, mais Dieu peut transformer des vies. Puis cette semaine, dans votre petit groupe, prenez le temps de partager les 3 noms, les 3 personnes que vous avez écrites. Prenez le temps de prier ensemble et en petit groupe, de prendre à cœur le salut de ces gens-là en priant pour eux, en priant que Dieu vienne changer leur cœur. Et si on s'engage tous ici ce matin, on est à peu près 150, mettons, je dirais, à prier pour 3 personnes. C'est presque 500 personnes. 500 personnes qui sont perdues, qui vont recevoir des prières, que Dieu va recevoir des prières pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Moi, je suis convaincu que Dieu peut sauver parmi ces gens-là. Prions, Seigneur. Prions le Seigneur, prions, frères et sœurs, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester, sa puissance se manifester dans les conversions. En plus de ça, écrire 3 noms, partager au petit groupe. On aimerait s'organiser dimanche soir, le 10 octobre, le soir de l'Action de grâce. Une célébration spéciale pour prier. Prier pour notre mission. Prier pour la mission qu'on a en tant qu'Église. Prier pour les gens qui sont perdus. D'avoir des partages des gens qui se sont convertis au courant de l'année. Je sais qu'il y en a pendant cette année ici dans l'Église qui se sont convertis. Mais peut-être avoir des partages, de pouvoir être unis ensemble dans la prière, qu'on puisse se mettre à genoux et prier que la puissance de Dieu se révèle dans la conversion des gens. Et j'aimerais vous inviter déjà à mettre ça dans votre agenda. Dimanche soir, le 10 octobre, une soirée de louanges et de prières. On veut prier que Dieu fasse des changements dans les vies. Frères et sœurs, soyons confiants dans la puissance de Dieu. Soyons motivés pour l'Évangile et prions que Dieu fasse son œuvre dans les cœurs. Es-tu découragé de voir que les gens autour de toi refusent l'Évangile? Peut-être que ça fait des années que tu pries pour quelqu'un. Mais Dieu a le pouvoir de sauver encore aujourd'hui. Alors, on peut être confiant, frères et sœurs. On peut être motivé pour l'Évangile parce que Dieu est puissant pour sauver. Parce que Dieu nous donne sa puissance. Dieu veut sauver des brebis qui ne sont pas encore de la bergerie. Et on a des milliers de gens dans cette ville qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Soyons confiants dans la puissance de Dieu et prions pour le salut des âmes. Allons et proclamons ce que Jésus nous demande de proclamer, le merveilleux Évangile. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es grand et tu es puissant pour sauver. Seigneur, combien de fois dans ma vie j'ai négligé de prier pour ces gens qui sont perdus autour de moi, ces gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, ces gens qui ont besoin que tu viennes te manifester à eux. Seigneur, je veux te prier pour mes voisins, ceux à qui j'ai pu partager l'Évangile dernièrement, mais qui, à première vue, ont refusé. Seigneur, je sais que tu es puissant pour sauver. Viens faire ton œuvre dans les cœurs des gens qui sont autour de moi. Aide-moi à être un témoin fidèle pour toi, puissamment fortifié par ta puissance. Et si, Seigneur, je perds le goût de partager l'Évangile, Seigneur, empêche que je sois découragé, mais que je puisse réaliser ta grandeur et ta puissance et combien tu es puissant pour sauver. Seigneur Jésus, il y a des milliers de personnes dans cette ville qui ne te connaissent pas encore. Et si nous sommes encore ici aujourd'hui, c'est parce que tu veux que nous gagnions ces gens à l'Évangile. On ne le fera pas par nos propres forces, on va le faire par ta force, Seigneur, et par ton pouvoir de changer les cœurs. Seigneur, viens déverser ton pardon. Viens accorder la délivrance et le pardon à ceux qui sont perdus, Seigneur. Et que nous puissions voir ta gloire manifestée, ta puissance manifestée dans des conversions. Et s'il y a quelqu'un ici dans cette salle ce matin, Seigneur, qui ne t'a pas encore remis sa vie, qui ne s'est pas encore repenti de ses péchés, pour saisir la vie éternelle que tu lui offres, le trésor merveilleux que tu lui offres dans le ciel. Seigneur, viens, interviens dans son cœur et viens le sauver. Seigneur, on veut voir ta gloire, on veut voir ta puissance et on veut t'implorer que ton pardon puisse être déversé. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever pour un dernier chant. Un chant qui est une prière à Dieu pour les gens de notre ville et que Dieu puisse manifester sa puissance.